Ce moment unique qui me revient toujours en mémoire soutient mon espérance et me donne foi aux destinées morales et religieuses de ma patrie. Au milieu de l'agitation universelle qui nous environne, je crois au repos de l'avenir. Car enfin, ce peuple s'est uni à jour dans une pensée commune. L'idée de l'ordre a lui à ses yeux. Ce n'est pas en vain que l'on a une fois entrevu cet éclair céleste. Ayons espoir et confiance. De quelque agitation que soit encore remplie la belle et terrible époque où notre vie s'est rencontrée. C'est la péripétie d'une tragédie où la victime est tout un monde, époque de destruction, de dissolution, de décomposition, d'analyse et de critique. C'est en philosophie, par l'analyse logique dans l'ordre social, par cette autre analyse de révolution et de guerre que l'homme passe d'un système à un autre, qu'il dépouille une forme pour en revêtir une autre et qu'il donne toujours plus à l'esprit. Mais ce n'est pas sans un cruel effort, sans un douloureux déchirement, qu'il s'arrache à la fatalité au sein de laquelle il est resté si longtemps suspendu. La séparation saigne aussi au cœur de l'homme. Cependant, il faut bien qu'elle ait lieu, que l'enfant quitte sa mère, qu'il marche de lui-même, qu'il aille en avant. Marche donc, enfant de la Providence, marche, tu ne peux t'arrêter. Dieu le veut, Dieu le veut. C'était le cri des croisades. Ce dernier pas loin de l'ordre fatal et naturel, loin du Dieu de l'Orient, en est un vers le Dieu social qui doit se révéler peu à peu dans notre liberté même. Mais s'il y a un moment où le premier disparaît et s'efface, où l'autre tarde à paraître, un moment où les hommes croient, comme Werner, voir sur l'autel le Christ en pleurs, avouer lui-même qu'il n'y a point de Dieu, dans quelle agonie de désespoir tombera ce monde orphelin. Demandez à la forturée Byron, comment, du fond de cet abîme, allons-nous remonter vers Dieu ? L'humanité, nous l'avons dit, procède éternellement de la décomposition à la composition, de l'analyse à la synthèse. Dans l'analyse, tous les rapports disparaissent, tous les liens se brisent. L'unité sociale et divine devient insensible, mais peu à peu, les rapports reparaissent dans la science et dans la société. L'unité revient dans la cité et dans la nature. Ce monde, naguère en poudre, se reconstitue et refleurit d'une création nouvelle où l'homme reconnaît, plus belle et plus pure, l'image de l'ordre divin. Aujourd'hui, la science en est à l'analyse, à la minutieuse observation des détails. C'est par là seulement que son œuvre peut commencer. La société achève un laid et sale ouvrage de démolition. Elle déblaye le sol encombré des débris du monde fatal qui s'est écroulé. Ce travail nous paraît long, sans doute. Voilà bientôt 40 ans qu'il a commencé. Hélas, c'est plus d'une vie d'homme, mais c'est peu dans la vie d'une nation. Tranquillisons-nous donc et prenons courage. L'ordre reviendra tôt ou tard, au moins sur nos tombeaux. L'unité, et cette fois la libre unité, reparaissant dans le monde social, la science, ayant par l'observation de détails acquis un fondement légitime pour élever son majestueux et harmonique édifice, l'humanité reconnaîtra l'accord du double monde, naturel et civil, dans l'intelligence bienveillante qui en a fait le lien. Mais c'est surtout par le sens social qu'elle reviendra à l'idée de l'ordre universel. L'ordre, une fois senti dans la société limitée de la patrie, la même idée s'étendra à la société humaine, à la République du monde. L'Athénien disait « Salut, cité de Cécrops !» Et toi, ne diras-tu pas « Salut, cité de la Providence ?» Le christianisme a constitué l'homme moral. Il a posé dans l'égalité devant Dieu un principe qui devait plus tard trouver dans le monde civil une application féconde. Cependant, les circonstances qui entourèrent son berceau l'ont rendu moins favorable à l'action commune, à la vie sociale, qu'à la contemplation inactive et solitaire. Lorsqu'il parut, Dieu était encore captif dans le matérialisme et la sensualité païenne. L'homme était emprisonné dans l'étroite enceinte de la cité antique. Le christianisme délivra l'homme en brisant la cité, affranchit Dieu en brisant les idoles, à ce moment unique. L'homme, entrevoyant pour la première fois sa patrie divine, languit pour elle d'un incurable amour, croisa les bras et les yeux vers le ciel, attendit le moment de s'y élancer. Quand sera-ce, grand Dieu ? Ouvriers impatients et paresseux qui vous asseyez et réclamez votre salaire avant le soir, vous demandez le ciel. Mais qu'avez-vous fait à la terre que Dieu vous a confiée ? Suffit-il pour dompter la matière de briser des images, de jeûner, de fuir au désert ? Vous devez lutter et non fuir. La regarder en face, cette nature ennemie, la connaître, la subjuguer par l'art en user pour la mépriser. Vous avez dissous la cité antique, cité étroite et envieuse qui repoussait l'humanité, et, des ruines de cette Babel, vous êtes dispersés par le monde. Vous voilà divisés en royaumes, en monarchies, parlant 20 langues diverses. Que devient la cité universelle et divine dont la charité chrétienne vous avait donné le pressentiment et que vous aviez promis de réaliser là-bas. Si le sens social doit nous ramener à la religion, l'organe de cette révélation nouvelle, l'interprète entre Dieu et l'homme, doit être le peuple social entre tous. Le monde moral eut son verbe dans le christianisme, fils de la Judée et de la Grèce. La France expliquera le verbe du monde social que nous voyons commencer. C'est au point de contact des races, dans la collision de leur fatalité opposée, dans la soudaine explosion de l'intelligence et de la liberté, que jaillit de l'humanité cet éclair céleste qu'on appelle le verbe, la parole, la révélation. Alors, quand la Judée eut entrevu l'Égypte, la Chaldée et la Phénicie, au point du plus parfait mélange des races orientales, l'éclair brilla sur le Sinaï. Il en resta la pure et sainte unité. Quand l'unité juive se fut fécondée du génie de la Perse et de l'Égypte grecque, l'unité s'épanouit et elle embrassa le monde dans l'égalité de la charité divine. La Grèce, Mitotokos, mère du mythe et de la parole, expliqua la bonne nouvelle. Il ne fallut pas moins que la merveilleuse puissance analytique de la langue d'Aristote pour dire aux nations le verbe du muet orient. Au point du plus parfait mélange des races européennes, sous la forme de l'égalité dans la liberté, éclate le verbe social. Sa révélation est successive. Sa beauté n'est ni dans un temps ni dans un lieu. Il n'a pu présenter la ravissante harmonie par laquelle le verbe moral éclata en naissant. Le rapport de Dieu à l'individu était simple. Le rapport de l'humanité à elle-même, dans une société divine, cette translation du ciel sur la terre est un problème complexe, dont la longue solution doit remplir la vie du monde. Sa beauté est dans sa progression infinie. C'est à la France qu'il appartient de faire éclater cette révélation nouvelle et de l'expliquer. Toute solution sociale ou intellectuelle reste inféconde pour l'Europe jusqu'à ce que la France l'ait interprétée, traduite, popularisée. La réforme du Saxon Luther, qui replaçait le Nord dans son opposition naturelle contre Rome, fut démocratisée par le génie de Calvin. La réaction catholique du siècle de Louis XIV fut proclamée devant le monde par le dogmatisme superbe de Bossuet. Le sensualisme de Locke ne devint européen qu'en passant par Voltaire, par Montesquieu qui assujettit le développement de la société à l'influence des climats. La liberté morale réclama au nom du sentiment par Rousseau, au nom de l'idée par Kant, mais l'influence du français fut seule européenne. Ainsi, chaque pensée solitaire des nations est révélée par la France. Elle dit le verbe de l'Europe, comme la Grèce a dit celui de l'Asie. Qui lui mérite cette mission? C'est quand elle, plus vite qu'en aucun peuple, se développe, et pour la théorie et pour la pratique. Le sentiment de la généralité sociale. À mesure que ce sentiment vient à poindre chez les autres peuples, ils sympathisent avec le génie français. Ils deviennent France. Ils lui décernent, au moins par leur muette imitation, le pontificat de la civilisation nouvelle. Ce qu'il y a de plus jeune et de plus fréquent dans le monde, ce n'est point l'Amérique, enfant sérieux qui imitera longtemps. C'est la vieille France, renouvelée par l'esprit. Tandis que la civilisation enferme le monde barbare dans les serres invisibles de l'Angleterre et de la Russie, la France brassera l'Europe dans toute sa profondeur. Son intime union sera, n'en doutant point, avec les peuples de langue latine, avec l'Italie et l'Espagne, ces deux îles qui ne peuvent s'entendre avec le monde moderne que par l'intermédiaire de la France. Alors, nos provinces méridionales reprendront l'importance qu'elles ont perdue. L'Espagne résistera longtemps. La profonde démagogie monacale qui la gouverne la ferme à la démocratie modérée de la France. Ses moines sortent de la populace et la nourrissent. Si pourtant ce peuple, rassuré du côté de la France, reprend son génie d'aventure, c'est par lui que la civilisation occidentale atteindra l'Afrique, déjà si bien nivelée par le mahométisme. L'Italie, celtique de race dans les provinces du Nord, l'Italie, préparée à la démocratie par le génie antiféodal de l'Église et du parti guelfe, appartient de cœur à la France, qui ne lui demande pas plus aujourd'hui. Ces deux contrées sont sœurs, même génie pratique. Salerne et Montpellier, Bourges et Bologne, n'avaient-elles pas un esprit commun? L'économie politique née en France a retenti en Italie. Il y a un double écho dans les Alpes. La fraternité des deux contrées fortifiera le sens social de l'Italie et suppléera à ce qu'elle laissera toujours à désirer pour l'unité matérielle et politique. Chef de cette grande famille, la France rendra au génie latin quelque chose de la prépondérance matérielle qu'il eut dans l'Antiquité, de la suprématie spirituelle qu'il obtint au Moyen-Âge. Dans les derniers temps, le traité de famille qui unissait la France, l'Italie et l'Espagne dans une alliance fraternelle était une belle image de cette future union qui doit les rapprocher dans une communauté de volonté et de pensée. Mais la vraie figure de cette union future de l'Italie et de la France, c'est Bonaparte. Ainsi, Charlemagne figura matériellement l'unité spirituelle du monde féodal et pontifical qui se préparait. Les grandes révolutions ont d'avance leur symbole prophétique. Quiconque veut connaître les destinées du genre humain doit approfondir le génie de l'Italie et de la France. Rome a été le nœud du drame immense dont la France dirige la péripétie. C'est en nous plaçant au sommet du Capitole que nous embrasserons du double regard de Janus, et le monde ancien qui s'y termine, et le monde moderne que notre patrie conduit désormais dans la route mystérieuse de l'avenir.